Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de janvier 2025. Bonne et sainte année à tous et à tous. Pourquoi pas adresser des lettres au Père Noël, même si c'est un être imaginaire, mais il porte toute notre espérance, alors que le monde en est en totale contradiction. Voilà. Alors, j'ai plusieurs lettres qui se sont présentées à moi. La première lettre, en fait, ce sont des lettres. Les lettres à mes sœurs de Fazia Kofi, une grande dame qui incarne la voix des Afghanes et qui vient tout juste de paraître chez Michel Lafon. Un ouvrage unique, une diffusion Gilles Paris que je vais vous présenter. Et vous encourager, c'est même pas un courage, mais vous proposer de le lire absolument. Le deuxième livre, ce sont des lettres de Hanoï, de Jean Tardieu, qui est paru aux éditions Gallimard. En septembre 1927, le jeune poète Jean Tardieu embarque pour une longue traversée à destination de Hanoï, au Tonkin. Et ces lettres, écrites à des amis parisiens, constituent une sorte de journal de voyage abondant. Le troisième livre, j'y reviens, ces lettres à la petite fille qui vient de naître, de Patrice Franceschi, édité par Grasset. J'y reviens parce que non seulement Patrice Franceschi s'adresse à sa petite filleule, mais il s'adresse en même temps à la jeunesse actuelle. Voilà pourquoi je vous en parlerai. Et puis il y aura une interruption musicale avec Mozart. Il y aura un quatrième roman reçu par La Poste, par ici, le studio, La Tendeur de première classe de Fabien Maréchal, aux éditions Le Chant des Voyelles, une édition qui a voulu rendre hommage par ce titre-là à Rimbaud. Et puis, j'aurai un cinquième, un sixième, un septième livre, peut-être même un peu plus. Un livre qui s'intitule, le cinquième, La maison hantée de Michel Audin, qui vient de paraître chez Minuit, ou qui va paraître chez Minuit. C'est sur la grande ville de Strasbourg, pendant son annexion par le Troisième Reich. C'est vraiment une nouveauté. Le sixième livre est un roman noir, parce que bon, j'aime aussi les romans noirs. On a tiré sur Aragon, et ça se passe en Belgique, à Waterloo. Et c'est de François Werth, qui est un auteur belge, disons belge, voilà. Et ça se déroule en grande partie à Bruxelles, dans les différents quartiers de Bruxelles. Et puis un cinquième livre, puisque j'ai parlé du Père Noël, enfin de Noël, eh bien voici justement un livre intitulé « Noël, toute une histoire » par Olivier Grenouillot, qui est paru aux éditions du Cerf, un superbe livre avec de très belles illustrations appropriées qui fait toute l'histoire, parce que Noël, ce n'est pas une histoire folklorique qui se passe au XIXe siècle. Ça commence bien avant à l'époque des Grecs et des Romains. Voilà, donc je vais commencer donc par le premier livre. C'est « Lettres à mes sœurs » de Fasia Kofi. Fasia Kofi, qui est vraiment une grande dame. On le voit sur ce livre en couverture, elle est présente, il y a un portrait d'elle en couverture, elle vous regarde vraiment avec beaucoup de force et de franchise. Elle incarne la voix des Afghanes. C'est écrit en collaboration avec Nor Zaher. C'est l'histoire de la femme qui voulait et aurait pu devenir présidente de l'Afghanistan. C'est celle qui a dû se réfugier au Royaume-Uni et puis aux États-Unis lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Celle qui a refusé d'être réduite au silence malgré deux tentatives d'assassinat, car on voulait qu'elle se taise et qu'elle n'agisse pas, qu'elle reste dans son coin comme une autre femme afghane qui n'a rien à dire. Elle est diplomate, elle parle très très bien l'anglais. C'est pour ça qu'elle a participé à tous des dialogues. Féministe, auteure et mère de deux filles, très présente dans toute cette histoire, Lettres à mes sœurs. L'une vit au Royaume-Uni et l'autre au Canada. Elle est le courage incarné. Cette femme, Fasia Kofi, est le courage incarné. Elle a jeûné toutes ses forces et sa détermination dans son combat pour la liberté. Se dresser pour défendre les plus vulnérables, tel est le but de sa vie. Et elle est connue, reconnue par le peuple qui la soutient, qui la pousse en avant. La société afghane est patriarcale. Il lui faut donc lutter pour faire la voix, pour faire reconnaître la voix des femmes, parce que justement dans cette société patriarcale afghane, eh bien les femmes sont déconsidérées. Et donc, grâce à elle, eh bien, elle reprend le pouvoir. Elle a été nommée diplomate et donc du Parlement. Et donc, elle est célèbre, elle agit, lutter contre les ennemis intérieurs, c'est-à-dire les élus masculins qui ont tendance à la repousser, peut-être même à l'empêcher de parler. Il y a eu des tentatives d'assassinat qui venaient peut-être d'eux. Donc, des ennemis intérieurs. Et puis, contre les talibans, ennemis extérieurs, les talibans qui, au début, ont accepté un certain dialogue. Il y avait donc des entrevues où elle participait à ces entrevues. Et puis, elle a été mise en résidence, donc elle ne pouvait pas bouger de chez elle. Et puis, pour finir, elle est partie en exil. À l'heure où en exil, c'est-à-dire sur la scène internationale, où elle agit, où elle est présente, très présente, où ses sœurs afghanes, pour lesquelles elle lutte chaque jour, sont muselées par les talibans. Les Occidentaux, la France, les États-Unis qui se sont retirés, qui ont retiré leurs soldats, hein, qui ont laissé donc les Afghans tout seuls pour réagir, pour lutter contre les talibans, qui, dans un premier temps, semblaient accepter le dialogue, mais pour finir, il n'accepte pas le dialogue. Donc elle lance un appel aux filles et aux femmes du monde entier. Il faut pour elle oser rêver, se révolter et se battre pour le changement. Oui, Fasia Kofi est une militante d'exception. Aujourd'hui à la tête du parti politique Mouvement pour le changement en Afghanistan. Fasia Kofi a été nommée en 2020 au prix Nobel de la paix pour son combat, donc une reconnaissance internationale. Et elle donc continue toujours à lutter. Elle est auteure aussi, donc elle a été l'auteur de « Lettres à mes filles » qu'elle avait écrit en 2011 et qui est un best-seller paru traduit en 10 langues. Mais donc dans ces « Lettres à mes sœurs », on retrouve vraiment toute sa lutte, tout son parcours. C'est celui-là, « Lettres à mes sœurs » de Fasia Kofi, La voix des Afghanes, qui vient de paraître chez Michel Lafond, qui était attendu et qu'il faut lire absolument pour voir tout son combat, toute sa lutte pour cette liberté. Le deuxième livre, donc, c'est aussi quelque chose de chaleureux, de très bien. Lettre de Hanoï de Jean Tardieu qui est paru chez Gallimard. En septembre 1927, au moment précis où ses premiers vers sont publiés dans la Nouvelle Revue française, le jeune poète Jean Tardieu embarque pour une longue traversée à destination de Hanoï. Donc, au Tonkin, au nord du Vietnam, pour y accomplir ses 2 années de service militaire, lui permettant aussi de rejoindre son père, le peintre Victor Tardieu, qui a fondé l'école des beaux-arts de l'Indochine. Car c'est bien de l'Indochine dont on parle aussi. Et cet homme, Victor Tardieu, est un homme tout à fait admirable, que l'on découvre dans ce livre, que son fils retrouve avec grand plaisir. Durant les 3 premières saisons de son séjour, Jean Tardieu écrit de longues lettres à 3 de ses amis parisiens. D'abord à ses camarades Michel Pontremoli et Jacques Urgon, qui sont de jeunes intellectuels passionnés de la littérature et curieux du vaste monde. Puis à Roger Martin Dugard, son maître dans l'art d'écrire et son mentor dans la carrière des lettres. Ce sont vraiment de grandes lettres mélangeant plein de choses, enfin sur la littérature, mais aussi la découverte de ce pays formidable. Dans le sillage de André Gide, de retour du Congo, le jeune poète propose, au fil de ses lettres, un ample journal de voyage, où les descriptions éblouies des paysages du Tonkin et du fleuve Rouge et des œuvres des artistes de l'école, grâce à un ami qui parlait le français, qui avait vécu à Paris et qui était un Vietnamien, qui était revenu, qui va l'introduire dans cette société Et il est vraiment très séduit par ce peuple du Hanam, avec des gens élégants, voilà. Il y a une petite critique du colonialisme, mais voilà. C'est vrai qu'il avait un service militaire hors norme parce qu'il devait se présenter 2 jours pour manger et se présenter à la caserne. Donc ça lui laisse beaucoup de temps pour découvrir ce pays, ces gens et le travail qu'a réalisé son père. Et c'est vraiment un très très beau journal, Lettres de Hanoï, présenté et établi par Delphine Autois. C'est vraiment superbe, favorisant le tout. Un récit enjoué qu'il faut lire aussi absolument. Le troisième livre, eh bien, c'est une reprise, Lettre à la petite fille qui vient de naître. C'est de Patrice Franceschi, paru chez Grasset. Dans une première lettre, il dit « Mon cher enfant, tu as à peine quelques mois d'existence. » C'est la petite fille de sa sœur. « L'avenir est tout entier devant toi, mais depuis le jour de ta naissance, je m'interroge sur le destin que te réservera le monde dans lequel tu viens de prendre place, et sur la manière dont je pourrai agir pour rendre ce destin le meilleur possible. » Dans une deuxième lettre, ou troisième, parce qu'il y en a eu plusieurs, dans une autre lettre intitulée « Ma petite filleule », tu dois faire le choix entre une carrière ou un destin. Le destin, c'est une voie qui tente de s'élever modestement, mais sûrement, au-dessus des choses humaines, qui sont trop souvent des choses éphémères, aux valeurs instables, afin de créer des valeurs nouvelles et laisser quelque chose derrière toi. Le fruit de ton passage sur la terre, ce qui est encore un supplément au bonheur. » Dans une autre lettre, il lui parle de l'amour et lui dit « Tu le verras, aimer véritablement, c'est vivre 2 fois, et peut-être même sans limite, car pour l'amour, les limites sont des prisons. Et savoir résister à la séduction du divertissement, car il faut penser par nous-mêmes et échapper au chaos des esprits et des âmes trop répandus dans les médias et dans le monde. Dispense-toi des connaissances inutiles et travaille à ce que ta capacité de concentration soit la plus grande possible. Sois inflexible avec toi-même pour démultiplier tes capacités d'action. Car souviens-toi que celui qui n'agit pas, n'existe pas. Et méfie-toi des modes qui passent trop vite. Et puis, dans une dernière lettre, il le parle, il dit « Et fais du voyage une fonction de ta vie pour découvrir les autres et toi-même. » voyage que, justement, Patrice Franceschi, il est écrivain, aviateur et marin, et il a fait plein de voyages et plein de récits de ses voyages. Voici donc des lettres pleines d'espoir, de solutions pour un regard d'enfant, en quête de rire, de paix et d'échange, avec au cœur, la vérité, la beauté, le courage, l'appel du risque, oui, c'est pour ça les voyages, c'est l'appel du risque et de la sagesse. Voici donc, avec Lettre à la petite fille qui vient de naître de Patrice Franceschi, un beau témoignage de vie. Et nous faisons une pause musicale avec Wolfgang Amadeus Mozart. Dans ce CD, il y a les deux concertos de Mozart qui sont superbes, mais trop longs. Et j'ai choisi plutôt l'allegro de la sonate pour piano numéro 16, dite sonate facile. C'est écrit en français, dite sonate facile, l'allegro par Katia Bunyastisvili, la formidable Katia Bunyastisvili. Et vous allez voir que c'est joué d'une manière tout à fait admirable. N'est-ce pas que c'est très beau, hein ? C'est joué avec ferveur, délicatesse. C'est pour la jeunesse, voilà. Alors maintenant, je vais parler d'un quatrième roman, L'attendeur, avec un grand A, de première classe, c'est de Fabien Maréchal, aux éditions Le chant des voyelles, un roman imaginaire, mais que l'on accepte très bien. Le personnage, c'est Grégoire Furnier, qui a intégré un tout nouveau corps d'élite, intitulé « Les attendeurs ». Grâce à une récente découverte scientifique qui fait la fierté du pays, ceux-ci sont capables d'attendre à distance et à l'avance pour les autres. Voici un exemple. Si des gens sont malades et qui espèrent une greffe, eh bien, des attendeurs sont là pour faire patienter le malade en attendant la greffe. Un ministre qu'un orage risque de retarder, un attendeur vient pour faciliter les choses et permettre d'attendre le ministre. Victime d'une catastrophe, appelant les secours. Donc on attend des secours. Et leur éviter ainsi de perdre un temps précieux. Il convient de maîtriser le temps incertain. Voilà pourquoi sur la couverture, on voit un visage, mais aussi avec plein d'horloges, de montres et d'horloges, pour montrer que ils sont maîtres du temps pour les autres. Mais, lors d'une mission d'importance, Grégoire provoque, sans le vouloir, une tempête médiatique que sa hiérarchie, parce qu'il a une hiérarchie, ne lui pardonne pas. Il est donc limogé. En fait, il sert, alors qu'il était de première classe, vraiment exceptionnel. Il sert de bouc émissaire, en fait. Honteux et déboussolé, donc limogé, il tente alors de mettre discrètement ses capacités extraordinaires. Oui, on va le découvrir, des capacités extraordinaires, au service d'anonymes, des voisins, ceux qui sont le plus proches de lui, d'où il vit, où il vit. Et il y a trois jeunes désœuvrés, donc il va les prendre, s'en occuper et leur permettre de vraiment réussir de belles choses alors qu'ils sont plutôt vraiment désœuvrés. Une adolescente et puis sa mère qui est brutalisée par son mari, donc il va parvenir à apaiser les choses. Un vieux voisin aussi qui a besoin de son aide. Et puis la concierge, des relations avec la concierge de l'immeuble dans lequel il vit, et qui lui permet de prendre conscience des uns et des autres. Seulement, voilà, cet attendeur non officiel, puisqu'il est indépendant et il doit trouver du travail, et il se sert de son travail, de ses dons exceptionnels, pour justement... Alors, cet attendeur non officiel attire les convoitises jusqu'à l'étranger. Une Anglaise, une femme, une belle femme, vient le trouver et lui propose de travailler pour l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Et puis en Allemagne aussi, des gens le remarquent. Au point que le ministère de son pays, parce que il tenait quand même à ce ministère, à sa hiérarchie, il en parle, et puis eux, ben, ils s'en inquiètent, et ils vont chercher à le récupérer pour eux, à ne pas le laisser partir à l'étranger. Alors ce roman, L'attendeur de Fabien Maréchal, aux éditions Le Chant des Voyelles, est un roman trépidant, plein de fantaisie et de poésie. Il évoque Lewis Carroll et Boris Vian. C'est une magnifique créativité qui nous fait rire, offrant un éclairage mordant et humaniste sur les folies du monde contemporain. Cet éditeur a une distribution pour les libraires chez Gis Corlet, par Gis Corlet. Je vous parle un petit peu de la bio de ce Fabien Maréchal, qui est un journaliste, mais qui a travaillé en presse locale et pour National Geographic, hein, c'est pas rien, auteur de plusieurs ouvrages chez des éditeurs indépendants, dont Dernier avis avant démolition, que j'avais remarqué, finaliste des prix hors concours et Bocasse. Il mêle préoccupations sociales, poésie et humour pour scruter les lézardes de notre humanité. Voilà, beau programme. Et je vous parle d'un cinquième livre, La maison hantée de Michel Audin, une nouveauté qui vient de paraître chez Minuit, aux éditions Minuit. Que je découvre Michel Audin parce qu'elle a écrit d'autres romans, mais c'est vrai que je ne la connaissais pas. Je suis heureux de la connaître maintenant parce qu'elle me séduit beaucoup par son écriture enlevée. En plus, ça se déroule, ce roman, La maison hantée, se déroule sur la grande ville de Strasbourg, que je connais aussi. Son héroïne, Delphine Maugin, dite Muller, parce que pour les Alsaciens, Maugin, c'est pas très facile à prononcer, alors que Muller, ça passe beaucoup mieux. Là-bas, elle est bibliothécaire. Elle était bibliothécaire à Paris, qu'elle quitte au moment où sa mère décède. Donc, elle va vendre l'appartement et puis avec l'argent, elle va venir s'installer à Strasbourg. Mais elle pense y rester peu de temps. En fait, elle va vraiment s'installer à Strasbourg, dans un immeuble. L'immeuble Kempner, par l'architecte propriétaire, voilà, avec un rez-de-chaussée surélevé. Et c'est vrai qu'à Strasbourg, j'ai vu plusieurs immeubles comme ça, dans différentes places, qui sont des immeubles avec un rez-de-chaussée surélevé, avec cave et mansarde, et ces rues du Nadir, voilà. Elle trouvera un service de bibliothécaire dans un laboratoire universitaire. Mais grâce à la concierge de cet immeuble, elle se passionne vraiment pour la géographie de cette ville, les différents quartiers, les animations, les boutiques, son histoire et les habitants qui peuplent cette grande ville de France. Et qui mêle catholiques et protestants dans une bonne entente. Voilà, il y a même des mariages mixtes qui se font. Par l'accueil de la concierge, voilà. Mais si elle reste une étrangère aux yeux des autres, mais il l'accueille quand même comme on sait être accueilli à Strasbourg, quand on est des Français, qu'on débarque à Strasbourg, par les Alsaciens. Donc, et elle va vivre, elle va revivre dans cette ville qui a vécu lors de son annexion par le Troisième Reich. Même si nous sommes dans les années 1950 et au-delà après la guerre. Donc il y a des personnes qui ont disparu, qui sont devenues des inconnus. Mais il y a quand même, elle va travailler dans les archives, rechercher, puisqu'elle est bibliothécaire, elle sait se servir d'archives, de livres, de lectures, pour redécouvrir un carnet qui reproduit la vie d'Emma, et les fantômes de la rue du Nadir. Voilà. Donc, grâce à cette vie d'Emma, elle va pouvoir refaire le trajet de ces gens, de ces Strasbourgeois, qui ont dû, dans un premier temps, choisir l'exil, partir jusqu'en Dordogne ou en Auvergne, à Clermont-Ferrand. L'université s'était réfugiée à Clermont-Ferrand. Et puis après, lorsque l'annexion sera faite, eh bien, revenir, pour ceux qui le pourront, sur Strasbourg et reprendre leur vie d'avant. Ce roman n'est pas l'histoire haletante d'un réfractaire poursuivi par la Gestapo. Non, c'est simplement un roman, justement, et c'est cela qui me plaît beaucoup, un roman de la vie quotidienne. Et là, vraiment, eh ben, je dis que c'est très bien, c'est un récit historique, plein d'intelligence, parlant de tous et faisant mémoire, justement, la maison hantée. Et je vous livre cette pensée de Robert Desnos qui est mise dans ce livre, en premier dans ce livre, Robert Desnos dans le texte. Le poème Le Myosotis, paru avec Chantefleur. Donc, voici cette poème, ce court poème. Ayant perdu toute mémoire, un myosotis ennuyé voulait-il conter une histoire ? Dès le début, il l'oubliait. Pas de passé, pas d'avenir, myosotis sans souvenir. Voilà pour cette maison hantée de Michel Audin aux éditions Minuit. Le sixième livre. On a tiré sur Aragon de François Werth au Rouergue noir est un grand livre. Merci à Nelly Mladenov qui me l'a fait parvenir, sachant mon goût pour ces romans qui se déroulent en Belgique. Et c'est le cas avec ce roman On a tiré sur Aragon de François Werth. Et c'est l'histoire d'une balle qui claque contre la pierre de l'escalier, de la butte du Lion de Waterloo, un endroit où, justement, que quand on va en Belgique, qu'on se dirige vers Waterloo, eh bien, on va admirer cette butte du Lion de Waterloo. Alors, un coup de fusil qui claque. Un coup de fusil dont on ne sait pas qui est l'auteur. Donc on va tenter de le découvrir. Ni s'il visait vraiment sa cible. Sa cible qui est Louis Aragon, invité à Bruxelles pour une conférence, et qui, en attendant cet instant, il aurait voulu revenir en ces lieux romanesques dont il parle dans un de ses romans pour voir s'il y a lieu de corriger un passage ou l'autre. Nous sommes en 1965. Victor, le personnage principal, avec un K, Victor, avec un K, comme KGB ou Kalachnikov, est un détective privé. Et c'est lui qui va être chargé de l'enquête. Il vénère la série noire de chez Gallimard, dont il aime lire les romans policiers. C'est pour montrer qu'il a un certain goût de la fantaisie. Mais ce fils de communiste fervent fut aussi un résistant, dont les souvenirs de combattants agacent son amoureuse, la belle Marie-Claire, laquelle accueille dans son club un immeuble dominant le centre de Bruxelles. Et son club est tout en haut. Tout ce que la Belgique, la France et l'Angleterre comptent de vedettes ou de célébrités, comme Louis Aragon, qui devait donner une conférence dans ce club où il n'y a que du beau monde. Eh bien, Louis Aragon, pour finir, à cause de ce coup de feu, il va partir et retourner aussi vite en France, donc il ne donnera pas sa conférence. Donc, chargé d'enquêter sur l'attentat gardé secret, donc on va découvrir peu à peu, grâce à Victor, qui a essayé de tirer, est-ce que c'était vraiment pour le tuer ou pour lui faire peur ou pour que justement il n'aille pas à sa conférence, qu'il s'en sauve. Donc Victor va devoir replonger dans l'épouvante de la Seconde Guerre mondiale. Et ce séisme que fut le pacte germano-soviétique, on parle aussi de polonisant. Lui, il rendit alors sa carte du parti. Victor enquête aussi sur lui parce qu'on parle d'un journal ou d'un dernier écrit mystérieux qu'il aurait rédigé avant de mourir sur le front où il reçut une balle. Quant à Aragon, qui s'oppose à Nisan, lui a gardé sa carte du parti. Ça, on le sait, parce que Aragon, malgré toutes les découvertes que l'on a pu faire sur cette seconde guerre mondiale, et le pacte germano-soviétique. Donc, lui, il avait gardé sa carte Aragon, sa carte du parti. Avec une passionnante érudition, 448 pages tout de même, François Werth place au cœur de son intrigue les rapports douloureux entre l'écriture, les écrivains et leur époque. Peut-on leur reprocher leurs engagements politiques ? Jusqu'à quel point sont-ils coupables des événements terribles qui se sont produits et quelles trahisons peuvent faire reprendre les armes. 20 ans après la fin d'une guerre, comme s'il restait encore des choses à résoudre. Voilà un grand roman établi par François Werth, qui est un grand journaliste établi à Waterloo et auteur de plusieurs romans noirs. Voilà, François Werth, on a tiré sur Aragon, Rouergue noir. Et puis, je voulais vous parler aussi, comme je l'ai dit, de Noël. Puisque même si on est après Noël, il n'empêche que Olivier Grenouillot vient de faire toute une étude superbe sur Noël, toute une histoire, un ouvrage qui vient de paraître au Cerf. Pourquoi Noël ? Pourquoi cette universalité, cette pérennité ? Pourquoi Jésus, la crèche, minuit, le sapin, la bûche, le réveillon, les cadeaux et les bougies ? En amont et en aval de la nativité du Christ, des banquets grecs invoquant Dionysos et des fêtes romaines honorant Saturne, on va au culte de Saint Nicolas et à l'invention du Père Noël au XIXe siècle. Voici sur 25 siècles l'histoire de la célébration cosmique et cyclique du solstice d'hiver, où la lumière triomphant de la nuit recommence l'enfance du monde. C'est en savant que Olivier Grenouillot nous fait voyager à travers les significations, les représentations et les mutations de cette fête des fêtes qui unit le rire et les réjouissances, le délice et le don, le plaisir et le partage. C'est en conteur qu'il nous fait visiter le musée imaginaire qui dépeint cet instant merveilleux où alternent fresques antiques, enluminures médiévales, oui, à l'époque médiévale, tableaux classiques, images populaires, artefacts folkloriques et panneaux publicitaires. Répondant à toutes vos questions, cette fresque éblouissante, une très belle couverture, vraiment, cette fresque éblouissante, ce livre, superbement écrite et richement illustrée, vous fera goûter comme jamais la joie de Noël. Je vois qu'il me reste encore un petit peu de temps. Donc j'avais prévu de parler, ça fait déjà un petit moment, mais je vais le faire maintenant, voilà. Les jardins de Torcello de Claudie Gallet, que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Un ouvrage paru, un roman paru chez Actes Sud, son éditeur, l'éditrice. Louise, dit Jess, est le personnage central de ce livre. Louise, dit Jess, ce qui fait plus moderne, semble avoir un destin tout tracé. Sa mère voudrait qu'elle suive ses pas et reprenne l'hôtel familial Les Géraniums dans le village qu'il a vu naître. mais elle est en rupture et veut emprunter des chemins de traverse, se laisser surprendre et apprendre la vie. Oui, c'est ça. Elle veut vraiment apprendre la vie. Elle quitte donc sa famille et ses trois amis, Camille, Boucle et Brousse, la fidèle Brousse, qui restera en contact avec elle, et Moreno, Moreno qui est l'amoureux, éprouvé par un drame terrible et qui va malheureusement disparaître. Ce sera à Venise, où logé dans un appartement prêté grâce à Pietro Barne, le fils de Madame Barne, une amie de la famille. Elle est donc très bien placée sur la Guidessa, avec une vue splendide sur Venise, sur les quais de, des Athères, qu'elle aime dessiner. Et vivotant, parce qu'il lui faut bien vivre quand même, des visites guidées qu'elle propose en ligne. Elle se nourrit de beauté, de découverte et des arts de la Biennale, parce que c'est l'époque de la Biennale. Du simple plaisir d'être là et déchiffrer les secrets de cette ville incomparable, et elle nous fait partager justement ces secrets de cette ville incomparable. Mais l'appartement est bientôt mis en vente. Il lui faut donc déménager et chercher d'autres ressources. C'est alors qu'elle trouve un travail d'appoint auprès de Maxence Darsène, fameux avocat pénaliste vivant en couple avec l'exubérant Colin. Il occupe une propriété au charme suranné sur l'île de Torcello, d'où le titre « Les jardins de Torcello », où il y a aussi deux chevaux, parce que Maxence Darsène aime monter sur l'un des chevaux, cheval. Où, entre deux affaires criminelles à Venise, il poursuit un projet magnifique, redessiner, reconstituer et sauver les six jardins mis en place par les moines en 1620. Le vignoble, le verger, le potager, le jardin des fleurs, celui des plantes aromatiques, celui des plantes médicinales qui parlent le mieux à Gès. Il est aidé par Elio, un taiseux, l'ombre de Maxence, un gardien au passé ténébreux que justement Maxence a pu sauver de la prison, débarquant sur cette île de Torcello, une île humide, un résumé de l'apparition de la vie sur la terre, une sorte de soupe commune de laquelle tout le vivant est issu, Gès va s'éprendre de ce lieu, de ce projet magnifique, et veut devenir l'ami de Maxence, baigné de lumière et de sentiments effleurés, d'espoir indicible, de révolte minuscule et d'émerveillement soudain. Le roman de Claude Igalet nous tient captifs des miroitements de la lagune et de cette première Venise, car c'est bien d'ici, après un âge d'or, que ravagée par les terres inondées, devenues marais avec moustiques et malaria, que les survivants, emportant les pierres, sont allés construire Venise. Un beau roman, voilà, qui met en scène une jeune femme pleine d'attentes, telle une vie à s'inventer, sous un vaste ciel de liberté. l'été. Et voilà, je termine avec Les Jardins de Torcello de Claudie Gallet qui est paru chez Actes Sud. Je vous dis bonne lecture, bonne année encore 2025, qu'elle vous apporte ce que vous désirez le plus ou le mieux. Et puis à bientôt.